Ce soir, je propose de parler de Simon-Pierre. Des fois, on est un peu dur avec des personnages de la Bible. Ils ont vécu une vie dans une période de temps peut-être différente de nous, avec les défis. Et nous avons quelque chose qui s'appelle en anglais « hindsight ». Je ne sais pas exactement le mot en français, mais nous avons la possibilité et un peu de recul de regarder quelque chose qui est déjà passé. Et des fois, on peut dire qu'on regarde comme ça, oui, il a fait ça ou elle a fait ça, et on peut facilement entrer dans une forme de jugement. Mais c'est d'avoir un respect pour la personne, et en même temps, apprendre de ses erreurs, parce que des fois, on fait la même chose. Et de ne pas être trop dur avec eux, de comprendre. Des fois, on peut dire on est les produits de notre temps. C'est pas exactement théologiquement correct, mais on est formé et on est influencé par le temps qu'on vit. Pierre, Simon-Pierre, certainement était. Imaginons pour lui un homme, lui en train d'attendre pour la Messie, comme tous les Juifs, en train de regarder l'injustice en train de passer avec les Romains, comment les pharisiens sont tellement durs et hypocritiques, et les sadducéens tellement libéraux. Et en regardant toutes ces choses, il vit sa vie. Et donc, je vais amener quelques points que je pense que ça va être intéressant pour nous, qui peut nous aider. En Matthieu chapitre 4, verset 8, pardon, 18, nous pouvons voir que Jésus est en train de marcher le long de la mer de Galilée. Il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Matthieu 4, verset 18. Et le premier point, il était un homme ordinaire. 1 Corinthiens chapitre 2 parle de pas beaucoup qui sont nobles. Non, c'est chapitre 1. Pas beaucoup qui sont nobles, pas beaucoup qui sont érudites, pas beaucoup qui sont puissants, haut placés, sont appelés. Paul est en train de dire, vous êtes ordinaires, Corinthiens. Et ici, Matthieu chapitre 4, Pierre, Simon-Pierre, était un homme ordinaire. Jésus a passé devant la mer de Galilée et il a vu deux hommes en train de faire son travail. Donc, en train de finir peut-être certains comptes, ils sont en train de nettoyer les filets parce qu'ils ont passé une nuit blanche en train d'essayer de chercher les poissons et jamais arriver. Donc, dans ce contexte, c'était pas une bonne journée pour Simon-Pierre. Parce qu'il était probablement frustré, probablement fatigué. Est-ce qu'on peut identifier avec lui un homme ordinaire? On est des hommes et des femmes ordinaires. On vit notre vie, le quotidien, c'est pas peut-être exceptionnel. Et on rencontre Dieu dans ce moment. Est-ce qu'il était prêt? Oui, apparemment, il était prêt quand il était appelé, mais un homme ordinaire. Application, je dois comprendre que je n'ai pas besoin de faire quelque chose et de chercher la grandeur pour moi-même. Dieu ne va pas être intéressé, il n'est pas intéressé de ma richesse ou ma pauvreté. Il n'est pas intéressé de ma culture. Il n'est pas intéressé de mon arrière-plan, ma famille, le nom, il est intéressé à moi parce qu'il m'aime et il veut que j'accepte lui. Et après, en tant que chrétien, il faut qu'on arrive de cet équilibre que nous sommes ordinaires. On est tous ordinaires, on n'est pas là. Les ducs, les comtes, les rois, les gens célèbres. Et ça, c'est un danger. Et je vais juste ajouter une parenthèse. Dans la vie chrétienne, dans le domaine et le milieu chrétien, il y a des gens qui sont célèbres. Et quand la célébrité dans le monde, il y a bien sûr une subsection de la société qui sont chrétiens, qui sont peut-être dans les films, qui sont des chanteurs ou chanteuses, et on peut facilement tomber sur un tête-piège que penser ils sont plus que nous. Michael W. Smith, Michael A.R. White, je cherche pour les noms de certains chrétiens, les deux hommes qui sont le groupe Selah, Shane et Shane, beaucoup, on peut citer beaucoup de noms, ils sont juste comme nous. Juste parce que quelqu'un était bien connu pour chanter et de produire des musiques ou de faire des films, ils sont péchés sauvés par la grâce comme nous. Donc, on ne peut pas entrer dans une façon de penser, ah oui, quelqu'un est plus que moi, non. Inferiority ou superiority complexe, non. Ils sont tous les batailles. Tous dans un monde qui est contre Dieu. Tous en train de glorifier Dieu dans une façon ou l'autre. Juste parce que quelqu'un est plus célèbre que nous, plus bien connu, c'est pas, en fait, des fois, c'est plus difficile pour quelqu'un de vivre ça. Ils sont bien connus dans le milieu chrétien. Les gens peuvent avoir une attente qui est pas réaliste. Et donc, merci Seigneur, je suis quelqu'un ordinaire. Je suis un pasteur, je suis là pour servir, mais j'ai pas des grandes attentes ou des grandes idées plus que haut que moi. Le psaume qui dit, je ne veux pas chercher de pouvoir avoir quelque chose de plus grand que moi. Je ne cherche pas pour ces choses. Est-ce que c'est en Jérémie aussi? Jérémie 45. Baruch, cherche pas d'avoir des grandes choses. Tu vas avoir une vie comme un bouton. Tu vas avoir une vie comme un prix. Tu vas sortir de cette histoire vivante. Donc, pour nous, de pas regarder comme l'autre côté dit, wow, la vie de quelqu'un d'autre est mieux que moi. Non, Simon-Pierre, il a fait une chose, il a fait son travail, il a servi sa famille, il était fidèle dans sa communauté. Nous aussi, on est ordinaire. Et ça, c'est pas quelque chose méprisable. On est ordinaire dans un bon sens. Et Dieu aime les gens ordinaires. Il y a beaucoup de gens ordinaires dans le monde. Apparemment, beaucoup de pauvres aussi. Et Dieu nous aime, pas parce qu'on est ordinaire ou pauvre, mais parce que nous sommes pécheurs et maintenant sauvés par la grâce et il a un cœur envers nous. Donc, Pierre, Simon-Pierre est en train de faire son travail, une vie ordinaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on peut dire, il était un homme appelé. Comme dans cet passage que nous avons lu, aussi en Marc chapitre 1, verset 16 et à 17, il a laissé tomber tout. On va lire ce passage, Marc 1, 16. Comme, en train de parler de Jésus, comme il passait le long de la mer de Galilée, vit Simon André frère et Simon qui a jeté le filet dans la mer car il était pêcheur. Jésus le dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcher d'hommes. Aussitôt, ils ont laissé le filet et le suivent. Laissez tomber tout. Jésus jamais fait des choses par hasard. C'était pas juste, voilà, je pense que je vais faire ça aujourd'hui, je vais marcher le long de la mer de Galilée. Non. Jésus, il avait 3 ans qui reste sur la terre. On va aborder ça pendant les évangiles cette semestre. 3 ans était très petit. Imagine un Dieu d'éternité et il a juste 3 ans maintenant de ministère, de servir le peuple, de préparer les hommes pour former une église, pour établir son église, bâtir son église, pour être le sacrifice parfait, mort, crucifié, ressuscité et de monter au ciel. Tout ça en 3 ans. Si je demande à quelqu'un de faire en 3 ans un projet de construire une cité de l'autre côté ici et de faire tout ça, je pense que avec toutes les ressources, on va stresser. On va dire quelle est la première chose qu'il faut faire. Est-ce qu'on a suffisamment de l'argent? Je vis à côté, non, ma mère vit à côté d'une maison en Angleterre que l'homme est en train de toujours faire une reconstruction de sa maison, c'est une voisine. Et il a pas fini. Donc c'est quand le tour de Babel, en fait, c'est quelque chose, mais c'est pas fini. Jésus a bien fini ce qu'il a commencé. Parenthèse fermée, tout est pour un but. Tout était précis. Il est, des fois, on vit une vie un peu comme ça. Mais Jésus, jamais. S'il était sur la terre maintenant, si le vision, la vie de Dieu, Christ crucifié, doit passer maintenant, je pense qu'il va passer une grande partie de sa temps au milieu de gens. Je peux imaginer dans une laundrette, dans un Migros peut-être, s'il était la Suisse. Mais tout ce pour dire, il va trouver les gens dans les vies et dans la vie ordinaire des gens. Et ici, il est dit, j'ai un rendez-vous avec 2 hommes. Je dois aller par cette route. Il était conduit jour par jour, moment par moment, d'appeler. Ah, c'est lui, Simon-Pierre. Simon-Pierre, André, suis-moi. Est-ce que nous pouvons avoir ce concept en nous que nos vies ne sont pas en vain? Que peut-être de boire un café avec un ami est une opportunité pour l'évangile. Opportunité de communion avec Dieu, opportunité peut-être d'être visible et que Christ est visible autour de tous les autres, de visiter, pour aller dans un airport aussi. C'est pas je suis en train de tourner dans un rang de temps pour le vol, non. Est-ce que je peux racheter le temps? Jésus a fait ça. Il vit en nous. Nous sommes son église. Il est la tête, nous sommes le corps. Est-ce que je peux avoir cette attitude? Ça, c'est la première application. La deuxième application, quand Simon-Pierre était en plein travail et le Seigneur dit, laisse tomber, suis-moi. Il a laissé littéralement tomber tout. Il a laissé tout. Aucune hésitation. Et Jésus a reproché un disciple qui a dit, est-ce que je peux retourner à la maison pour enterrer mon père? Un autre qui a dit, est-ce que je peux retourner à la maison de dire au revoir à ma famille? Et il a dit non, non, suis-moi. Aucune excuse. Et Pierre, il n'a pas donné l'excuse. Bravo Pierre, Simon Pierre, tu as laissé tomber tout parce que tu as compris mieux que les autres que Dieu peut, si Dieu peut occuper de la monde, il peut occuper de ma famille dans mon absence. Et donc, on doit en application accepter des fois de laisser tomber quelque chose. Une illustration ordinaire dans ma vie est quand je suis venu en Suisse. J'étais en colocation avec des amis et je ne sais pas combien de fois que j'ai prépare un bon thé anglais. Et le thé est là, je commence à boire et les gens disent, oh, on va aller là-bas. Et je dois laisser le thé de refroidir. Et moi, je dis, est-ce que c'était la peine de chauffer le bouloir, de faire ça? Est-ce que quelque chose a passé? Il faut que nous sommes prêts à laisser tomber quelque chose pour l'évangile. Des fois, on est en plein travail. Et c'est bête. Mais qui était en plein travail aussi? Mathieu, avec son table, avec tous les impôts. Et il a laissé tomber tout dans son travail. Il a tourné, il a parti. Sa vie était plus mémorable, c'est qu'il a resté. Il n'a jamais de regrets pour ça. Et bien sûr, comme tous les autres, il était martyrisé. On ne va pas être martyrisé, j'espère. Mais je veux amener cette pensée. Laissons tomber des fois des choses dans nos vies. Combien de fois quelqu'un est en train de compter, oui, un, deux, trois, quelque chose, je ne sais pas si c'est l'argent ou compter quelque chose d'autre, non, un, deux, trois sur un papier, et quelqu'un arrive et dit, ah, est-ce que tu as fait ça? Et tu perds le compte. Et tu dis, mince! 118, 119, 2000, etc. Des fois, le Seigneur va dire ça. Et c'est embêtant, mais le Seigneur va dire, laissez tomber tout ça. Chut. Suis-moi. Suis-moi maintenant. Pierre fait ça. Bravo Pierre, parce qu'on est en train de parler de lui ce soir et on va voir lui devant la face de Christ pour éternité. Et il avait dit, wow. C'était beaucoup plus intéressant que tous ces poissons. Ça, c'est sûr. J'ai quitté mon travail. Je vais dire quelque chose de direct. Je travaille une partie de ma vie d'aider les clients d'acheter les actions sur la bourse. Acheter et vendre. Et j'ai vu beaucoup de choses. Mais dans un moment, j'ai dit, il y a quelque chose de plus dans ma vie de valeur, d'aider les gens d'être riches. C'était bien, un bon salaire en plus. Mais c'était, quand c'est fini, j'ai dit, Amen Seigneur, c'est fini. Et donc, quand c'est fini, c'est fini. C'est le même pour nous tous. Ça, c'est une application, ça, c'est une illustration. Mais la vie consiste de plus que ça. Ça, c'est le deuxième point. Un homme qui est appelé et un homme qui est répondu. Triste est l'homme qui répond pas de son appel. Si on passe à côté de notre appel, on va passer le reste de notre vie avec les regrets. Est-ce que si je fais ça, ça va avoir une meilleure vie? Aucun regret si on entre dans notre appel. Si mon Pierre fait ça, moi je suis content. Ma vie est compliquée. Des fois j'ai des nuits blanches et des fois des pensées, ah Seigneur, pourquoi? Mais ça, c'est une vie comme nous tous. On va tous avoir des batailles dans nos vies. Mais aucun regret. Parce que je sais que je vais passer l'éternité dans sa présence. Et je vais voir les gens à côté de moi et on va dire, wow, merci Seigneur que j'avais l'occasion de servir ton peuple. Deuxième point, troisième point. Luc chapitre 5, verset 8. Un très bon point. Quand il vit cela, Simon-Pierre tombait aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. En fait, il avoue le péché miraculeux. Et donc, il voit qu'il est dans la présence de Dieu. C'est un miracle. Le minimum, c'est un prophète, mais il a compris, c'est le Messie. Il est tombé, il a dit, je ne suis pas digne d'être dans ta présence. Un homme qui a compris la profondeur de sa péché. En fait, il a compris qu'il est pécheur, on peut dire comme ça. Combien de fois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui disent « Loin, loin Seigneur de moi, je suis pécheur, je ne mérite pas d'être dans ta présence. » Ésaïe, chapitre 6, « Je suis un homme avec les lèvres impures, je ne mérite pas d'être dans ta présence Seigneur. » C'est bien, c'est honnête, on est des pécheurs. Et on va continuer d'être pécheurs, mais bien sûr, on ne vit pas avec la domination d'une ancienne nature pécheresse, mais bien sûr, on ne veut pas faire, mais sur la terre, c'est sûr, on va pécher une fois avant on est pris par le Seigneur, dans sa présence, beaucoup plus peut-être, mais on ne vit pas avec ça, mais on accepte que devant sa présence, on est plus petit. Le plus on approche le Seigneur, le plus on sent on est indigne. Le plus on réalise on connaît rien. Cette sens d'être indigne n'est pas nécessairement un sentiment qui est négatif. C'est aussi bon pour nous de réaliser, sans lui, je peux rien faire, parce que des fois, et je répète ça, on marche dans cette vie chrétienne en pensant que nous comprenons quelque chose. Et notre engagement avec le Seigneur est quelque chose qui nous amène à une position plus favorable devant lui. Mais on est toujours dans le même stade. Sans lui, on peut rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Cette sens de crainte dans sa présence, révérence. Pierre avait ça. Seigneur, tu es pas mon pote. Tu es le Dieu tout puissant, créer le monde et je suis gardé dans ta main. Et tu gardes toutes choses dans ta main. Hébreux chapitre 11, verset 6. Tu gardes en vie tous dans tes mains. Donc, point numéro 3. Point numéro 4. Peut-être on ne va pas identifier avec cette tempérament, cette trait caractéristique, cette trait de caractère. Impulsif. Impulsif. Des fois, je peux être impulsif, peut-être certains de nous. Peut-être c'est l'opposé pour certains de nous. Mais il a fait des choses extraordinaires. Mais quand Jésus arrive en marchant, il a dit sur l'eau, il a dit, si tu veux, appelle-moi, je vais sortir de le bateau. Et il a fait. Matthieu chapitre 14, verset 28. Il a sauté du bateau. Il a opposé Jésus quand Jésus a dit, je vais aller à Jérusalem, c'est ma destin, c'est le but que je vais mourir. Je vais avoir une énorme souffrance avec les sacrificateurs, avec les autorités religieuses. Je vais mourir pour tout le monde. Et Pierre dit, certainement pas, il a tourné, physiquement tourné Jésus. Et Jésus a dit, derrière de moi, Satan, tu ne sais pas les pensées de Dieu. Tu n'apprécies pas. Donc, de faire ça à Jésus, de poser Jésus comme ça, de couper l'oreille aussi, couper l'oreille de Malchus. Bravo, bravo, c'est bête de faire ça, mais des fois, on peut faire la même chose. On est capable de faire des bêtises énormes. Mais vois comment il peut sauter dans ça avec impulsion. Le meilleur que j'aime le plus, c'est quand Jésus est sur le mont de transfiguration, en train de parler avec Moïse et Élie. Et Pierre, il a dit, si c'est bon, on va préparer un tabernacle, un petit demeure, un pour chacun de vous. Et en train de parler, le Père coupe ses paroles et dit, c'est mon fils, écoute-lui. Écoute, ça. Donc, impulsion. Des fois, on pense que d'être impulsif, c'est un bon caractère, c'est un trait, d'être caractéristique qui est bon. Mais, on sort devant Dieu et il est là et on, comme on nous place devant lui, et il a dit, suis-moi, pas assez de tracer le chemin devant moi. Donc, on doit arrêter et de laisser lui. C'est une forme de réaction et c'est une forme de, quel est le mot? Ah, c'est une impulsion, c'est une forme de, quel est le mot? De penser de Dieu quelque chose qui est pas vrai en avance. Présomption. C'est une forme de présomption. Oui, on peut le faire. Écoute, Pierre, calme-toi. Mais présomption, c'est dangereux. Et après, Jésus doit nettoyer tout le travail, tout le chenille que Pierre a laissé après, il a fait une erreur. Pour Malchus, c'était l'oreille, c'était compliqué, mais pas pour Jésus. On peut faire des choses comme ça, rapidement, et après quelqu'un dit, mais comment on va nettoyer tout ça? Est-ce que quelqu'un a expérimenté ça dans ton travail? Quelqu'un autre a fait tout ça, tu dis, maintenant, on va retourner à point numéro un pour enlever tout ça. Avant, on peut avancer, on peut dire, mince, comment le Seigneur pensait en faire ça? Il est tellement patient, mais ça, on perd un peu de temps parce qu'on était impulsif. Prochain point, point numéro 5. Il était déçu de lui-même en Matthieu chapitre 26, 69 à 75. Donc, ce passage, Jésus a dit, en fait, en avance, tu vas me régner. Tu vas me nier. Régner. Matthieu 26. Tu vas, c'est pas de 13 ans. Nier. Régner. Tu vas me régner. Ok. C'est un mot que je dois pratiquer de prononcer. Mais c'est de dire, je connais pas Jésus, je connais pas cet homme. C'est Matthieu 26. Et donc, il est tellement profondément déçu avec lui-même. Parce qu'il avait, bien sûr, une bonne volonté. Mais son problème est ça, des fois. Et c'est le même pour nous. On a vécu une vie avant Christ. On a vécu une vie énorme avant Christ. Et on pense que nous sommes le centre du monde. Et une expression qui est la meilleure pour résoudre le problème, c'est moi. Si personne d'autre peut résoudre le problème, c'est moi. Ça veut dire, je suis le centre de mon propre monde. Je suis convaincu et j'ai la confiance dans ma propre chair. Personne d'autre peut le faire, mais le Seigneur non plus. Je dois faire ça pour moi-même. Orgueil, ça c'est la première chose. Deuxième chose, manque de confiance en lui. On doit faire confiance en lui et accepter des fois, en tout temps, si je fais confiance en moi-même, ça va finir mal pour moi. Et c'était, il arrive jusqu'au bout de dire, non, bien sûr, je ne vais pas faire ça. Et Jésus dit que tu vas certainement le faire. Trois fois avant le coq chante. Et il a fait. Et après, il sort dans une grande dépression et une énorme tristesse. Il était triste parce qu'il a réalisé finalement, en moi, c'est le mal. Je peux rien faire sans Jésus, en fait. On doit accepter encore et encore que moi-même, séparé de Dieu, j'ai un potentiel pour beaucoup de bêtises, beaucoup de méchanceté. Si je peux pas attacher à lui, je vais s'éloigner, je vais être influencé par le monde. Et lui, il doit apprendre cette leçon. Avant honneur et humilité. Avant l'honneur et l'humilité. Je dois être humilié. Jacques chapitre 4, verset 6. Il donne une grâce plus excellente à ceux qui sont humbles, en fait. Mais il va résister ceux qui sont orgueilleux. Toujours il va résister les orgueilleux. Pourquoi? Parce que c'est moi, c'est pas juste Nebuchadnezzar, par exemple, qui était orgueilleux. Non, c'est moi aussi. Des fois, j'ai besoin d'être, en anglais, taken down a step, d'être coupé un peu. Oui, je dois être rabaissé. Oui, oui, je dois arriver là-bas. Je dois être rabaissé, je dois être humilié. Parce que des fois, je fais des choses trop rapidement, j'ai beaucoup d'idées, peut-être l'orgueil, et le Seigneur dit, wow, wow, wow. Et un exemple pratique de ça, des fois, je suis dans mes pensées, je dis, oh, cette personne, c'est terrible, ils ont fait ça, qu'est-ce que je vais faire quand je veux. Et j'arrive d'un point, des fois, avec ces trains de pensée, que je tape ma tête contre le mur, ou, non, en fait, je fais un accident, et je tape. Je dis, comment je fais quelque chose de bête comme ça? Je suis pas, quel est le mot? Pas gaucher, clumsy. Maladroite. Mais, oui, gaucher, oui. Maladroite. Je suis pas nécessairement la maladroite, mais peut-être c'était quelque chose qui m'amène à mes propres pensées. De dire, wow, wow, arrête, focalise sur moi. Continue pas dans ce chemin. Ça, c'est une bonne chose. Par exemple, le brûler la main avec le café, ou de boire le café, c'est tombe sur le t-shirt qui est propre. Il dit, mince, comment ça se passe? Il tape le doigt et dit, ah, comment je fais ça? C'est simplement des fois, c'est un accident. Mais des fois, je pose la question. Merci Seigneur, maintenant je suis en train de construire à toi. Et je vais nettoyer toute cette messe, toute cette chose. Donc, juste pour dire, on doit arriver d'accepter d'être humilié par le Seigneur, c'est la meilleure façon. Parce qu'il va nous honorer après. Mais si on résiste, il doit faire quelque chose. Ça, c'est point numéro 6. Restaurer. Restauration. Jean chapitre 21 rencontre cette conte de, historique de Jésus qui a cherché les disciples. Et on va pas parler pourquoi ils sont là sur le lac en train de pêcher. On va parler simplement du fait que après, en train de manger les poissons que Jésus a préparé, pas les poissons ils ont miraculeusement cherché eux-mêmes, Jésus prend le temps de parler personnellement avec Pierre et demander une question trois fois. Dieu va prendre le temps de restaurer notre relation. Pourquoi? Parce qu'il est personnel, il a un Dieu personnel, il a une relation personnelle avec nous et nous sommes importants pour lui. Nous sommes le prunelle de ses yeux. C'est pas juste Israël qui est le prunelle de ses yeux. Nous également sont le prunelle de Dieu. Nous sommes ses princes et princesses devant lui. On est honoré, estimé. On est une valeur immense. Au-delà qu'on peut penser, Psaume 139 parle de les pensées de Dieu et en fait immense. J'ai énormément beaucoup de pensées que je ne peux pas mesurer. Je n'ai pas la capacité de comprendre comment Dieu pense à moi. Et ses pensées, c'est pour moi. Et je suis le récepteur de ses pensées. Donc, il m'estime important, digne de son attention. Comment on apprécie quelqu'un qui en a un respect? Prends-nous à part et parle avec nous et nous appelle par notre propre nom. Et cette personne nous écoute. On est dans un monde tellement impersonnel. On est dans un monde que personne n'écoute l'autre. Des fois, nous tous, parfois, cette erreur. Une personne en train de parler dans un, salle, une pièce de l'autre, et personne peut écouter l'autre. Et des fois, dans un travail, deux personnes sur le téléphone en train de crier, et le deux crie l'autre, et personne n'écoute l'autre. Une chose que j'ai trouvé, c'est pas négatif, mais c'est intéressant. Les Finlandais, quand les Finlandais écoutent, ils coupent pas les paroles de quelqu'un d'autre. C'est tellement impoli. C'est juste un commentaire culturel d'écouter jusqu'à la fin de la personne à parler. Les Italiens parlent en même temps et c'est comme ils écoutent mais ils parlent. C'est pas négatif, c'est juste de noter un trait culturel. C'est intéressant. Mais de voir les cultures sont différentes. Mais de retourner de notre culture on peut se dépraver dans le monde, c'est négatif. Et les gens sont ignorés quand on n'écoute pas. Et des fois, on tous tombe dans ça. Mais juste pour dire que Jésus a pris le temps de parler et d'écouter, parce que Dieu est comme ça. Il veut nous écouter quand on parle. Est-ce qu'il connaît nos pensées avant on pense? On peut réfléchir. Oui, il le fait. C'est vrai. Mais est-ce qu'il veut écouter quand on formule nos pensées dans une réponse et on parle à lui? Oui, il aime ça. Dieu aime notre communication. Quand on aime quelqu'un, on aime d'écouter cette personne de parler. Quand on a une amitié avec quelqu'un, on aime la communication. Quand c'est trop familier, ça, c'est une autre chose, mais j'aime dans une amitié entre des gens de juste écouter les gens de parler. J'aime ça. Et de communiquer aussi. Et Dieu fait ça. Et il a fait ça. Et il a fait ça pour restaurer quelqu'un qui a senti tellement loin. Simon-Pierre, je ne mérite pas ta présence, Seigneur, mais tu veux parler avec moi et tu me restaures. Et en plus, tu ne vas jamais parler de cette erreur que j'ai faite. C'est déjà résoudre. Il était très fidèle, point numéro 7. Très fidèle à Jésus. Et ça, c'est des fois une erreur. On peut être tellement fidèle et loyal. Loyal, c'est le mot. Une loyauté envers la personne qu'on protège la personne trop. Il y a une faute des fois dans les relations d'amour. On protège quelqu'un trop. Trop. C'est possible entre une mère et un fils. Je sais ça, moi personnellement. C'est possible pour un fils avec sa mère. C'est possible avec les relations entre les parents, les enfants, c'est possible dans les mariages, c'est possible dans les amitiés, c'est possible dans le corps de Christ. On va protéger quelqu'un. Moi, en tant que pasteur, je peux faire ça aussi avec quelqu'un dans le corps de Christ. Essaye de protéger la personne trop. Et ici, l'application vient de l'exemple de Malchias. Quand Jésus arrive, et tout le foule de ces sacrificateurs, soldats, etc. approche dans le jardin de Gethsemane. Qu'est-ce qu'il a fait? Simon-Pierre a pris l'épée et Jésus dit, écoute, si je veux, je peux tuer tous ces soldats, tout l'Empire romain, comme ça, juste un appel des anges et 12 bataillons, 12 Légion, 12 groupes en fait, d'anges peuvent descendre tout et tout. Et c'était être rapide. Mais ce n'est pas le moyen que je vais sauver l'humanité. Donc, Simon-Pierre, il a guéri Malchias. On peut entrer par notre sens de protéger quelqu'un d'autre contre Dieu parce qu'on est en train de bloquer Dieu dans son travail. Des fois, dans l'église, des fois, dans nos vies, laissons quelqu'un d'apprendre par erreur. Il faut. Des fois, est-ce que Dieu en contrôle? Oui. Est-ce que Dieu va nous aider, demander à nous de nous aider si c'est nécessaire? Oui, il va le faire. Est-ce qu'on doit sauter pour la protection de quelqu'un d'autre si c'est pas nécessaire? C'est notre instinct. Mais l'instinct n'est pas nécessairement de Dieu. L'instinct est aussi naturel. Donc mon instinct de protéger ma femme dans les guêpes, les araignées, les moustiques, et tout. Oh, c'est juste des exemples bêtes, mais est-ce qu'on peut être trop protectif? Oui, on peut. Est-ce qu'il y a une place pour être protectif de quelqu'un en respect et en aime? Oui. Mais est-ce qu'on va laisser l'espace pour Dieu de travailler parce que la sanctification implique un certain apprendre par erreur des fois, par nos propres erreurs? Oui. Et Simon-Pierre doit faire ça et laisser Jésus de marcher le chemin que seulement Jésus peut le faire. Et il a fait. Finalement, il a pris. Et nous, il faut que nous faisons la même chose avec Dieu, avec les autres, dans nos relations. Et après ça, on vit une vie, pas de stress, mais une vie de repos. On n'est pas en train de réagir, on est en train de dire, OK, Seigneur, je suis prêt. Et le Seigneur dit, aide cette personne maintenant. Ou il va dire, c'est avec moi. Ou c'est pas avec toi, c'est avec moi, j'ai appelé quelqu'un d'autre. C'est pas toi, quelqu'un d'autre. Simon Pierre était trop protectif. Pas nécessaire, et il a pris par erreur. Et c'est important des fois de prendre ça. Donc, je propose d'arrêter là. Je n'ai pas proposé d'entrer plus. Mais finalement, après toutes ces choses, il avait une vie qu'il était appelé et l'appel était accompli et finalement il était crucifié à l'envers pour la gloire de Dieu. Et maintenant, il est dans la présence de Dieu. Et l'Église était bâtie. Et lui, il avait une responsabilité dans l'Église, gouvernée par Jésus-Christ. Et on est en train de parler de ce soir. Et il reste toujours dans la parole de Dieu pour l'éternité. Donc, on peut apprendre par Simon-Pierre et par les autres pour notre bien marche sur la terre. Voilà. Que Dieu vous bénisse.